Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
.fr.
Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
LGSN.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
La COVID-19 continue son avancée sur la planète et elle semble surtout pas ralentir en Amérique latine et aux États-Unis. L'Organisation panaméricaine de la santé doit d'ailleurs faire le point sur la situation ce matin vers 11h30, si je me trompe pas. Et on va en parler avec le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est aussi professeur agrégé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. François Audet. Bonjour, Monsieur Audet.
Oui, bonjour.
Merci de nous parler ce matin. Dites-nous, qu'est-ce qui explique la gravité de la situation?
Ben, pour l'Amérique latine, évidemment, dont on parle, d'une part, le virus continue inexorablement partout, hein, et il va continuer. Donc, l'Amérique latine, c'est autour de l'Amérique latine, entre guillemets. On a vu donc la première, hein, le premier courant pour l'Asie, ensuite ce fut l'Europe, ensuite l'Amérique du Nord, et maintenant c'est autour de cette région-là. Donc, c'est un peu dans la continuité. Alors, il y a un facteur, je dirais, épidémiologique standard, mais la zone est particulièrement touchée, ou certaines zones particulièrement touchées, parce que c'est pas tous les pays. L'Argentine fait très bien, notamment l'Uruguay également. Mais quand on regarde certains grands pays, Brésil, Mexique, Pérou également, ce sont donc des pays où on retrouve des facteurs extrêmement de grande vulnérabilité. On parle notamment d'inéquité, donc des populations qui sont très riches et d'autres excessivement pauvres. Alors, une partie importante des populations de plusieurs des pays n'ont simplement pas d'accès à des soins de santé valables ou simplement pas d'accès à des soins de santé, d'une part. Et d'autre part, également, on retrouve au sein de plusieurs de ces populations-là des facteurs aggravants médicaux. Donc, on retrouve des gens, évidemment, qui ont de l'obésité, des gens qui ont du diabète, comme dans n'importe quelle société moderne, mais qui, malheureusement, n'ont pas d'accès aux soins de santé. Alors, c'est des populations qui sont à la fois vulnérables, mais qui ont très peu d'accès, comme on peut l'avoir ici, par exemple, à des soins de santé, même si on s'en plaint parfois, et donc, on a cette espèce de phénomène-là. Et très souvent, dans le cas de l'Amérique latine, assez généralement, je vais peut-être généraliser un peu, mais on voit et on observe que c'est les populations, je dirais, de couleur qui sont particulièrement vulnérables, parce qu'on connaît le système d'inéquité dans plusieurs pays où les populations noires, par exemple, vont être celles qui vont être très marginalisées par rapport aux populations blanches dans les grandes villes. Et donc, dans les bidonvilles, par exemple, dans les zones très peuplées où la distanciation physique est très difficile à faire, où il n'y a pas de lavage de mains possible régulièrement, où il n'y a pas de masque, le virus se propage très largement.
Vous parlez d'inéquité, de vulnérabilité, mais en même temps, quand on regarde bon les trois pays au niveau de l'Amérique du Nord qui sont en tête du palmarès des nations les plus éprouvées, ben il y a quand même les États-Unis. Est-ce que ça implique le fait que c'est comme si la politique avait pris le dessus sur la santé publique?
Tout ça, hein, c'est pas et on constate et on en apprend tous les jours par ailleurs, mais on constate effectivement que le leadership en temps de crise, donc le narratif politique semble jouer évidemment, puis ça c'est pas sorcier de comprendre, à la mesure où par exemple on a un leadership ou un discours politique de prévention, de précaution, d'éducation du public et à ce moment-là on constate que les pays qui ont ce type de leadership-là ont mieux fait que d'autres. Quand on tombe dans des systèmes plus populistes, hein, c'est le cas du Brésil, c'est le cas des États-Unis également, dans le cas aussi où on voit des discours qui sont plus anarchiques, voire même qui tombent parfois dans les théories du complot, dans la méconnaissance scientifique ou ne simplement pas écouter la science, ben là, c'est sûr qu'on aggrave évidemment la situation parce que partie de la population qui fait confiance à la gouvernance va donc évidemment être très vulnérable, va pas avoir un comportement adéquat pour de prévention et donc, le leadership politique, clairement, dans certains cas sur la planète, et quand on aura le temps et on aura les leçons apprises à faire, on pourra, à mon avis, et là je le fais à titre d'hypothèse, mais on pourra, à mon avis, très certainement détecter comment le leadership politique à certains endroits a été central pour sauver des vies et dans d'autres, comment il aura accéléré le virus.
Alors, si on reste dans le jeu des hypothèses, est-ce que vous pensez que les conséquences à long terme peuvent être très, très grandes? Parce que nous, ici au Québec, on nous prépare à la deuxième vague, on anticipe, puis en même temps, ben ça semble quand même bien en contrôle. Si les États-Unis vont si mal que ça, ils sont pas encore dans leur deuxième vague, est-ce qu'on peut appréhender le pire ici au Québec?
Écoutez, comme le disent plusieurs épidémiologistes, hein, ce qu'on appelle la deuxième vague, c'est relatif. C'est essentiellement la cohabitation avec le virus et un retour hein, à des activités qu'on espère un peu normales, le retour à l'économie. Dans notre cas, ça sera probablement en parallèle au retour à l'école cet automne, avec aussi les périodes grippales et aussi un climat là, qui est propice et favorable là, à l'émergence là, d'une vulnérabilité sur notre système immunitaire qui est l'automne en général. Et donc, c'est vers ces éléments-là, c'est lorsque ces éléments-là seront mis en place qu'on a plus de chances de revoir des pics. Alors, de quelle nature sera la nouvelle vague, entre guillemets? Est-ce que ça continuera à être quelque chose, comme on le voit maintenant, qui est épisodique, qui est sectoriel et qu'on est capable de circonscrire? C'est l'hypothèse optimiste qu'on doit faire et de s'assurer que les gens continuent à maintenir un comportement adéquat et qu'on puisse retirer les malades ou les candidats potentiellement contagieux du système plutôt que de tout fermer le système parce qu'il y a des gens qui sont contagieux, voyez-vous. Alors, dans la première vague, on a tout fermé sans trop savoir ce qui se passait. Là, maintenant, on sait ce qui se passe et ce qu'il faut qu'on continue à faire, c'est s'il arrive dans une industrie, dans une école, dans un secteur régional, un épisode important, que ça soit que ce secteur-là, donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un reconfinement sectorialisé. On le voit un peu en Europe. C'est ce que, et je me permets de le dire rapidement, c'est ce que Melbourne en Australie n'a pas été capable de faire. Donc, on a vu des pics importants de retour en Australie, qui n'ont jamais été nécessairement très affectés, mais qui ont pris des mesures draconiennes, notamment en refermant une des grandes villes, Melbourne, complètement, avec des mesures très, très strictes au niveau social et économique, pour tenter d'endiguer là, cette, entre guillemets, seconde vague là, qui semble extrêmement importante là, dans certains coins en Australie.
Et je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de la COVID à Haïti?
C'est une bonne question. Pour Haïti, comme pour plusieurs autres pays d'Amérique latine, d'ailleurs, il faut le dire, les données qu'on a sont assez sommaires. Alors, pour Haïti, actuellement, les indicateurs les plus réels, c'est la surmortalité, c'est aussi l'analyse des cimetières, hein, voir est-ce que les statistiques normales sont maintenues ou si on voit davantage de mortalité. C'est ce qu'on observe, entre autres, dans certains pays d'Afrique, notamment dans les pays musulmans qui ont des mœurs extrêmement complexes pour la mise en terre des morts. Et c'est, je dirais, plus facile de pouvoir faire des statistiques. Dans le cas d'Haïti, on peut l'observer aussi. On voit une petite surmortalité pour le moment, mais pour l'instant, ça semble pas être encore dramatique. Donc, pour diverses raisons, est-ce que c'est parce que c'est une population qui est encore assez jeune? Est-ce qu'il y a déjà dans la population une certaine résistance naturelle, etc.? Ou est-ce que simplement le virus n'est pas encore rendu là, hein, comme l'Amérique latine n'était pas encore rendue il y a un mois? Donc, est-ce que Haïti sera frappé plus tard? Le virus y est bien. Par ailleurs, il y a officiellement là, 7 ou 8 000 cas, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des décès de recensés, mais ça ne semble pas être une hécatombe là, comme on pouvait, par contre, l'anticiper. Par contre, évidemment, l'impact économique, je me permets aussi de le dire rapidement, pour Haïti et pour beaucoup de pays pauvres, sera probablement plus désastreux que le virus lui-même. Et là, actuellement, on regarde l'impact économique sur l'ensemble de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Donc, on parle de 300 millions de personnes qui tomberaient dans la pauvreté, qui perdraient leur emploi. Et notamment, un des gros enjeux actuellement pour l'ensemble de la région, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, une perte d'accès, évidemment, à la production, l'incapacité de pouvoir, donc une augmentation des prix, notamment pour une partie de la population. Et là, notamment pour Haïti, pour revenir à votre question particulière, un pays pour lequel j'ai j'ai beaucoup d'amour. C'est l'enjeu principal pour le moment. C'est vraiment la dimension donc de la sécurité alimentaire. Et beaucoup de régions rurales en Haïti n'ont plus accès à des vivres. Une augmentation significative sur les prix du marché. Et là, ça va devenir extrêmement problématique pour beaucoup de gens qui vivent en Haïti.
Ben, je suis contente de vous entendre sur cette question-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, que ce soit bon en Afrique du Sud, bien sûr, que ce soit pour Haïti. Toute la question, justement, des problèmes de pauvreté sur les lendemains de la COVID. On sait qu'ici, même au Québec, c'est difficile. Bon, c'est des degrés très différents. Vous qui travaillez au quotidien, justement, au niveau des questions internationales, ça va être des durs lendemains pour des pays comme des pays, certains pays d'Afrique, pas tous, là. Il y en a qui sont très riches, ça va très bien, mais des pays comme Haïti ou certains pays d'Afrique, ça risque d'être des durs lendemains.
Effectivement, et c'est en fait, c'est là où on constate qu'il y aura de plus dur lendemain, pour reprendre votre terme, c'est là où il y a le plus d'inégalités. Et même ici, hein, on l'a vu au Québec, même à Montréal, la région de Montréal-Nord, notamment certains secteurs de Côte-Saint-Luc, des populations à haute densité de population, et où il y avait des main-d'œuvre, notamment une main-d'œuvre qui était proche des malades, qui travaillaient dans les milieux de soins, etc., ont été extrêmement touchés par le virus. Et donc, le même phénomène s'applique partout. Donc là où il y a des inégalités socio-économiques, c'est là où on va retrouver le plus grand impact. Et étant caressé dans les hypothèses qu'on est en train de voir dans la littérature, notamment ceux qui pensent au monde dans 3 ou 5 ans, certains estiment que l'impact économique post-COVID va faire beaucoup plus de victimes que l'épidémie comme telle. C'est-à-dire que là, pour le moment, il y a une grande tristesse à voir toutes ces milliers de morts, ces centaines de milliers de morts, mais combien de morts l'impact économique fera-t-elle, notamment sur la malnutrition, les problématiques vraiment d'accès à la nourriture et à la pauvreté, aux conséquences économiques de tout ça, ça va être très certainement, selon certains indicateurs, beaucoup plus important. Alors, c'est loin d'être terminé. Donc, l'épidémie va se terminer éventuellement, mais l'impact économique, lui, va se faire ressentir beaucoup plus longtemps, moins dans des pays industrialisés et diversifiés, avec l'économie diversifiée comme le nôtre, mais dans des pays pauvres qui dépendent parfois d'un ou deux secteurs. On pense, entre autres, aux pays du tourisme que beaucoup de Québécois fréquentent. C'est clair que ces pays-là vont subir des conséquences. On peut imaginer notamment Cuba, la République dominicaine, pour penser à deux pays très populaires chez nous. L'économie est en train complètement de collapser, là, pour prendre un terme anglophone.
Très, très intéressant. Merci infiniment de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci infiniment, François Audet.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.